Quand nous parlons, quand nous voulons parler le langage de Dieu, parler le langage de Dieu et se mettre à son niveau, en quelque sorte, hein, monter le plus possible. Quand nous voulons, comme dit le texte hébreu, briqueter des briques pour arriver jusqu'à Dieu, c'est-à-dire mettre Dieu au bout de nos constructions humaines, notre langage est brouillé. Pourquoi il est brouillé? Parce que il ne réalise plus la distance qu'il y a entre Dieu et nous. Et donc, nous transposons, nous, comme les textes mettent toujours en Dieu, la réalité dont nous vivons. Ce n'est pas Dieu qui arbitrairement va brouiller le langage des gens. C'est quand nous voulons devenir Dieu, et nous voulons le devenir chacun à notre tour, nous utilisons un langage incompréhensible. Il faut bien que Dieu nous le révèle, que notre langage est faux. Et c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent plus se comprendre. N'oublions pas... Ça, je vais m'en rappeler. Mais n'oublions pas que les quatre chapitres du début de la Genèse sont une réinterprétation de mythes anciens qui veulent expliquer une chose bien concrète. Pourquoi l'homme et la femme ne s'entendent-ils pas alors qu'ils sont faits pour l'amour? Pourquoi les frères ne s'entendent-ils pas alors qu'ils sont faits pour la fraternité? Pourquoi les générations ne s'entendent pas, Noé et ses fils, alors qu'ils sont faits pour transmettre la foi, donc pour la continuité? Pourquoi les hommes ne s'entendent-ils pas et qu'ils parlent de langues différentes, alors qu'ils sont faits pour reconnaître ensemble le seul et unique Dieu dont ils sont les fils? Ces quatre questions fondamentales de l'homme, la question homme-femme, la question des sexes, la question de la fraternité, la question des générations et la question des langues, de la difficulté à faire l'Europe, de la difficulté à faire le monde. Comme me disait un arabe, vous êtes curieux, vous les Européens, vous parlez des langues différentes et vous arrivez à faire l'Europe. Alors que nous, il dit, nous parlons des langues différentes, nous parlons la même langue, excusez-moi, nous parlons exactement la même langue, et nous n'arrivons pas à faire l'unité entre nous. Mais je le rédis, c'est parce que probablement que vous voulez chacun être le maître. Et quand chacun veut être le maître, on rejoue Babel. C'est ça Babel, c'est vouloir chacun être le maître. Et vouloir imposer aux autres. Imposé par sa technique, imposé par tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait dans le monde. On joue Babel sur tous les échiquiers du monde, y compris à l'ONU.
Et donc la jalousie de Dieu l'a présentée comme ça.
C'est la force de son amour. De l'amour qui est unique. Hein. Quand on dit jalousie, c'est toujours l'amour unique. C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte, tous ces gars-là, hein, qui veulent monter jusqu'à moi, ils ne se rendent pas compte que c'est moi qui leur donne de se comprendre les uns les autres. Et donc, s'ils veulent eux-mêmes découvrir un langage qui soit finalement le langage de Dieu, ils vont tomber sur leur nez. Or ici, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent leur langage de Dieu.
Quand on a tué le père, il n'y a plus de frère. Est-ce que quand l'an dernier, il serait père?
Il a bien raison.
Maintenant, les Hébreux ne supportent pas que Dieu reste passif. Hein, c'est pour ça qu'on lui attribue cette jalousie.
Mais puisqu'il est le maître, qu'il a un dessein sur l'histoire, il faut bien. Il ne peut pas être passif. Mais au fond, hein, cette activité de Dieu est provoquée par notre péché. On va voir, d'ailleurs, ça va revenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le monde reçoit son principe d'unité. Son principe d'unité, c'est l'esprit de Jésus. Et donc, qui découvre l'esprit de Jésus devient Jésus. Donc, reçoit la force de Jésus. Donc, la force de remettre debout, la force de ressusciter les hommes, ben, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce que Pierre va dire, en d'autres termes, dans ce petit discours, dont je ne sais pas reprendre tous les détails, je prends simplement deux points. Hommes juifs et tous ceux qui habitent Jérusalem, que ceci vous soit connu et mettez-vous dans les oreilles mes paroles et mes mots. Non, ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez, parce que c'est seulement la troisième heure du jour, on n'est pas ivre à 9h du matin quand même. Hein? Mais c'est ce qui se trouve être dit par le prophète Joël. Il y aura dans les derniers jours, dit Dieu, et Luc ajoute dans les derniers jours, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et toute chair verra le salut de Dieu, vous rappelez? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà, le salut de Dieu qui arrive. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes hommes verront des visions, et vos anciens des songes. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. De mon esprit. C'est ce qu'il y a qui revient. Et nous prophétisons. Homme juif, il dit. Homme israélite. Il ouvre déjà. Homme juif, c'est dans ce Judas, hein, donc autour de Jérusalem. Homme israélite, ça va plus loin. Tous ceux qui sont par le monde. Entendez ces paroles. Jésus, le Nazaréen, homme qui se trouve être accrédité par Dieu auprès de vous, par des gestes de puissance et des prodiges et des signes que Dieu fit par lui au milieu de vous, selon que vous-même le savez, celui-ci, attention, livré suivant le dessein fixé et la préscience de Dieu. Vous voyez que tout est mis de nouveau sous le
fallait.
Hein? La responsabilité de Dieu en quelque sorte. C'est son dessein. Il passe à travers tout ça. Et c'est ce que nous lui donnons, hein? À travers lequel il doit passer. Par la main de sans loi qui l'attachait, vous l'avez fait périr. Lui que Dieu ressuscita, l'ayant détaché des douleurs de la mort, pour la raison qu'il n'est pas possible que lui soit maintenu sous elle. Et puis alors, il va parler à partir du texte de David, donc du psaume 16. Et puis, troisième vague de ce discours, homme frère, homme juif, homme israélite, homme frère. Il devient déjà universel. Il fait ce qui a déjà été produit par la Pentecôte. Il ouvre le discours. Ayant entendu, ils furent transpercés du cœur et dirent à la veste de Pierre et des apôtres, que faire, homme frère? Qu'est-ce que nous allons faire? Voyez, donc, le début de l'évangile. Jean-Baptiste, convertissez-vous. Et que chacun soit plongé, soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voyez le baptême. Nous retrouvons Jean-Baptiste. Le baptême de l'Église primitive. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car elle est pour vous la promesse, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin. Ceux qui sont au loin, c'est toujours les païens, de manière traditionnelle. Autant que le Seigneur, notre Dieu, aura appelé auprès de lui. C'est vrai que tous les gens qui se trouvaient là, c'était des juifs, venant de tous les coins du monde. Mais ils symbolisent déjà tous les coins du monde d'où ils viennent. Ils symbolisent l'universalisme du monde d'Esprit Saint.
Mais c'est curieux qu'on rebaptise dans l'eau. On a annoncé que Jean-Baptiste était dans de l'eau de la piquette, que ce serait dans l'Esprit Saint.
Et ils ont déjà reçu l'Esprit Saint et ils rebaptisent dans l'eau. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ, le double dynamisme, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel baptême, c'est le baptême de Jésus pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don de l'Esprit Saint, car elle a pour vous la promesse. Voyez la conjonction des deux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Et puis vous avez, là je vous le dis pour preniez conscience de ce qui est présent, comment maintenant le corps du Christ va-t-il se structurer? Ils étaient en enfer, à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Si je prends le livre du judaïsme après la Bible, le Pirkei Avot, c'est-à-dire les sentences des pères, nous trouvons que le monde est construit sur trois piliers, la Torah, la Avoda et la Gemilut HaSadim. Ça veut dire sur la loi, la Torah. Et ici, la loi est remplacée par l'enseignement des apôtres sur Jésus, bien entendu. Sur la communion fraternelle, ça c'est la Gemilut HaSadim, c'est-à-dire les œuvres de miséricorde, si nous traduisons littéralement. La communion, le partage, la fraction du pain et les prières. Et ça, c'est la avoda, c'est-à-dire le culte. Dans le temple, dans les maisons. Comme ça se faisait dans le judaïsme. Dans le temple, pour la célébration des sacrifices, et dans les maisons, pour le sabbat, la liturgie du sabbat. Vous voyez, de nouveau, mis en continuité avec le judaïsme. Et une crainte arrivait sur tous, et de nombreux signes et prodiges arrivaient. Donc on est sur trois piliers qui sont au fond, qui deviennent quatre. Parce que le culte a une double forme, culte domestique et culte social. Et chaque jour, tenant ferme, d'un même cœur, dans le temple, et rompant le pain à la maison, ils prenaient leur nourriture en allégresse et simplicité de cœur. Louant Dieu, et est en signe de grâce auprès du peuple entier. Et le Seigneur ajoutait chaque jour, pour faire bloc ensemble, ceux qui étaient en train d'être sauvés. Voilà la communauté, la première communauté. Communauté qui surgit de l'action de l'Esprit Saint, mais communauté qui s'aligne, qui se conforme à la vie de Jésus. C'est ce que va exprimer, bien sûr, la résurrection, il faudrait traduire comme ça, la remise debout du boiteux de la belle porte du temple. Je ne reviens pas sur ce texte, vous le connaissez bien, mais je vais au chapitre 4. Comme eux parlaient à l'adresse du peuple, survinrent auprès d'eux des prêtres, et le stratège du temple, c'est-à-dire les gens qui font la police dans le temple, et les sadducéens, les grandes familles sacerdotales, les grands prêtres dans l'évangile, étant agacés par le fait que eux enseignaient le peuple et annonçaient en Jésus la résurrection, celle des morts. Que les pharisiens annoncent la résurrection des morts pour la fin des temps, soit. Ça va encore. Mais quand on annonce la résurrection des morts comme étant quelque chose d'arrivé en Jésus de Nazareth, ah, les sadducéens, là, ils cadrent. Vous savez que les sadducéens n'admettaient pas la résurrection des morts. Ils jetèrent sur eux les mains et les mirent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà la soirée. Beaucoup parmi ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes devint 5 000, tandis que, après la Pentecôte, il y a aussi un certain nombre de gens qui sont convertis. Et puis, après cela, chaque jour, des gens qui sont ajoutés. Eux donc, ayant fait bon accueil à sa parole, après la Pentecôte, furent baptisés et furent ajoutés en ce jour-là environ 3 000 âmes. Ce sont des chiffres de Pentecôte, ça. Et alors, les voilà donc qui sont sommés de comparaître devant le tribunal. Il arriva le lendemain que furent rassemblés leurs chefs et les anciens et les scribes à Jérusalem. Et puis, dans certains manuscrits, on a ajouté et Anne le grand prêtre, et Caïphe, et Jean, et Alexandre. Au fond, probablement pour faire le rapprochement avec Jésus et sa comparution. et autant qui étaient de la classe archisacerdotale. Et les ayant placés au milieu, ils s'informaient en quelle puissance et en quel nom fîtes-vous cela, vous, pour poser la même question à Jésus, hein, dans le temple de Jérusalem, chapitre 20e. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, qui est lui aussi, dit à leur adresse, chef du peuple et ancien, si nous, aujourd'hui, nous sommes instruits en procès à propos d'un bienfait accordé à un homme faible, généralement, on est mis en procès parce qu'on a fait du mal. Si nous sommes en procès parce que nous avons fait du bien. Par quoi celui-ci s'est trouvé sauvé, hein? Qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen que vous, vous avez crucifié, que Dieu réveilla des morts. Voilà le deuxième dynamisme. C'est lui qui fait vivre. Par lui, c'est par lui que celui-ci se trouve présent, en présence de vous, en bonne santé. Celui-ci est la pierre qui fut tenue pour rien par vous les bâtisseurs, et nous revenons à Luc 20, le même chapitre, hein, avec la parabole des vignerons homicides, qui devint tête d'angle, psaume 118. Car, et en personne d'autre, naît le salut, car il n'est pas sous le ciel un autre nom qui s'est trouvé donné parmi les hommes, en lequel il nous faut être sauvés. Il ne faut pas passer par lui. Il est incontournable. Or, observant l'assurance de Pierre et Jean, et s'étant rendu compte que c'étaient des hommes illettrés et ignorants, qui connaissaient quand même bien leur écriture, ils s'étonnaient et reconnaissaient qu'eux étaient avec Jésus. Et la continuité, qui est marquée ici, et regardant l'homme qui se trouvait debout au milieu d'eux, qui se trouvait être soigné, ils n'avaient rien à contenir. Et alors, on les remet en liberté. Or, eux, ayant été menacés, et les ayant menacés à nouveau, les relâchèrent, ne trouvant en rien comment les punir, innocence, comme prononcé pour Jésus, à cause du peuple, le peuple aussi, avec, du temps de Jésus aussi, on avait peur du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu à propos de tout ce qui se trouvait arrivé, car il était de plus de 40 années l'homme sur qui se trouvait être arrivé ce signe de la guérison. Il ne fait pas m'étendre sur ces 40 années. Ces 40 années font évidemment allusion aux 40 années du désert, où il n'y a que deux personnages qui ont traversé tout le désert. C'est
Josué
et son compagnon, que vous trouvez, je crois que c'est dans le livre des Nombres. Ce sont les deux hommes qui ont traversé le désert. Donc ça veut dire quelqu'un qui est depuis 40 années, qui a depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire qu'il a fait toute l'expérience de la résurrection du peuple telle qu'elle s'est opérée au désert. Mais je ne n'approfondis pas la question. À ce moment-là, qu'est-ce que nous avons ? Ayant été relâchés, ils vinrent auprès de leurs proches. Ils rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens avaient dit à leur adresse. Or, eux, ayant entendu d'un même cœur, donc la communauté où ils reviennent, élevèrent la voix à l'adresse de Dieu, et ils dirent, Maître suprême, toi qui fis le ciel et la terre et la mer et tout ce qui est en eux, il parle avec les psaumes, hein. Toi qui par l'Esprit Saint, parlant par la bouche de David, ton enfant serviteur, notre père, dis, en plus de quoi grondèrent les nations? Et les peuples prirent-ils à cœur du vide? Les rois de la terre se présentèrent et les chefs furent assemblés au même lieu pour faire bloc contre le Seigneur et contre son Christ. Vous reconnaissez le psaume 2. Psaume des nations qui s'opposent au roi de Jérusalem que Dieu a mis là. Car en vérité, en cette ville, c'est contre ton saint enfant serviteur Jésus que tu as ouvert que tu as moins. Le quatrième de Luc, de l'Évangile, que fut rassemblé Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, retrouvons Siméon, pour faire tout ce que ta main et ton dessein avaient fixé d'avance qu'il avait fait. Et maintenant, Seigneur, jette tes yeux sur leurs menaces et donne à tes serviteurs de parler sans cesse ta parole avec toute assurance. Et nous avons un modèle de lecture de psaume tel qu'on l'a pratiqué dans l'Église primitive. On applique le psaume à Jésus. Ça va devenir traditionnellement la prière psalmique, où on applique chaque psaume, puisque Jésus a récité chaque psaume, on applique chaque psaume à Jésus. C'est de lui qu'il parle. Dans le fait d'étendre sans cesse ta main pour une guérison, et pour qu'arrive sans cesse signes et prodiges, comme l'avait dit Joël, par le nom de ton saint enfant serviteur Jésus. Voilà comment on appelle Jésus. Dans les Actes des Apôtres, on voit bien que l'Église primitive a hésité, a pris des quantités de noms. Médiateur, celui qui ferait la voie, le pionnier, le serviteur, le maître, hein, toutes sortes de pierres d'angle, toutes sortes de mots pour essayer de désigner Jésus. On n'a pas trouvé tout de suite. Ce n'est qu'après que le Seigneur Jésus-Christ est devenu en quelque sorte le nom propre. Et comme eux avaient imploré, fut secoué le lieu dans lequel ils se trouvaient assemblés, et ils furent remplis de l'Esprit-Saint. Voilà, encore une nouvelle Pentecôte. Oui, on va de Pentecôte en Pentecôte. La Pentecôte peut arriver à n'importe quel moment. Dès qu'on a découvert la présence de Jésus parmi nous et qu'on en est en train de se conformer à lui, l'Esprit-Saint devient présent. Et il parlait la parole de Dieu avec assurance. L'Esprit fait parler. Vous vous rappelez, dans l'Évangile, là où on parle de l'Esprit Saint, au chapitre 11, et Jésus était en train de jeter dehors un démon sourd-muet. Or, il arriva comme le démon était sorti, le sourd-muet parla. Et alors, il se demande, mais ce n'est pas le prince du monde qui jette dehors les démons, mais non, ce n'est pas le doigt de Dieu, c'est donné par l'Esprit. L'Esprit fait parler. Et maintenant, on va nous reparler de la communauté.
Dans le discours de Pierre, on retrouve les trois éléments essentiels à la base de tous ces discours. Vous avez tué, Dieu a ressuscité, nous sommes témoins.
On le retrouve pratiquement dans tous les
exégètes, estime que ça remonte.
C'est le vieux qui rime, hein, la vieille annonce.
16 fois, primitive.
Les comptes, c'est ça. Oui. Dodd a fait un petit tableau dans son livre sur l'Église primitive, hein, sur les discours des actes. Il a fait tout un tableau synoptique qui est fort intéressant pour montrer tous les éléments qui se répètent dans tous les discours. Et ceux qui n'arrivent que d'un côté ou de l'autre.
En fait, encore que même des éléments en plus, vous êtes plus bien que les chats, ça devient quand même arrêté, c'était écrit, mais convertissez-vous.
Le pire, ce n'est pas vous êtes plus bête que les chats. Vous êtes méchant. Parce que si vous êtes plus bête que les chats, il n'y a pas de faute. Tandis que vous êtes méchant, mais Dieu vous convertit. Alors, il faut vous dire la faute pour que vous convertissiez.
C'est la faute d'ignorance, hein, Jésus le dit.
Ah oui, mais l'ignorance est une faute. Et dans le judaïsme, hein, on est pécheur quand on ignore. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû étudier la loi. Et donc l'ignorance. Alors, si je me hâte un peu, c'est parce que je voudrais arriver à ce point-là. Vous allez arriver à vous montrer que ce qui avait été dit de Jésus, une personne, et redit maintenant de la communauté. Nous avons vu comment la communauté est sous la mouvance de l'esprit, comment elle devient en quelque sorte filiale. Mais il y a un passage important. Parmi la multitude de ceux qui avaient cru, il y avait un seul cœur et une seule âme. Donc il y a une unité. et personne ne disait sien, quoi que ce soit qui était à lui. Ceci est intéressant. Ceci est anti-Babel. Babel, c'est toujours se mettre en avant. Ici, personne ne disait sien ce qui est à lui. Ce que j'ai, mais c'est commun. Mais pour eux, tout était commun. Et c'est par une grande puissance que les apôtres rendaient le témoignage de la résurrection du Seigneur. Et une grande grâce était sur eux tous. Et nous retrouvons là encore la communauté idéale du chapitre 15 du Deutéronome. Il n'y aura donc plus de pauvres parmi vous. Voilà, ça c'est l'idéal. Non, voyons s'il est réalisé. Dans notre église. Car personne n'était nécessiteux parmi eux. Car tout autant de ceux qui étaient possesseurs de terrain ou de maison, les vendant portaient le prix des biens mis en vente et ils les mettaient aux pieds des apôtres. Or, il était distribué à chacun selon que quelqu'un aurait besoin. Vous avez remarqué qu'il y a un piège qui est évité dans la manière d'écrire cette phrase. On ne dit pas « et il mettait aux pieds des apôtres et ceux-ci distribuaient à chacun selon ce que les besoins de chacun ». Vous avez remarqué,
on dit pas
« il était distribué ». C'est ce qu'on appelle un passif divin. Ce n'est pas les hommes qui distribuent, toujours mal. Il faut voir comment Dieu distribue. Et c'est beaucoup plus difficile. Et alors, on va vous donner un exemple positif et un exemple négatif. Un exemple positif, c'est celui de Barnabas. Il faut bien poser l'homme, hein, l'homme qui va être le découvreur de la foi à Antioche. Il faut bien lui donner son statut. Il faut lui montrer à quel point il était fidèle. Celui qui s'appelle Bar Nachma, c'est-à-dire fils de la consolation. Et puis on va vous donner un exemple négatif. Et nous retrouvons dans les personnages d'Anani et sa fille, Adam et Ève. C'est une image, une façon, une sorte de midrash, qui reprend le péché originel, qui raconte le péché originel, en passant d'ailleurs par le chapitre 7 du livre de Josué, hein, le péché d'Acan, et qui, en filigrane, nous dit « attention, dans la plus belle communauté où le partage des biens devrait être la réalité commune, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et donc il faut que Dieu traverse aussi ce péché originel de la communauté. » Mais c'est ce que le texte va nous raconter. Joseph, qui fut surnommé Barnachma ou Barnabas par les apôtres, ce qui se traduit fils de la consolation, un Lévite, chypriote de naissance, ayant vendu un champ qui était à lui, et il y avait déjà Judas qui avait vendu un champ. Et voici un deuxième qui vend un champ. Il était libre. Plusieurs, on pouvait pas vendre ces gens, attention. On était libre de distribuer ses biens ou non. Mais si on le faisait, fallait jouer le jeu. Et on vendit un champ qui était à lui, emporta le produit et le mit au pied des apôtres. Or, un certain homme, du nom d'Ananias, Ramania, c'est-à-dire Dieu fait grâce, d'accord avec Saphira qui veut dire la pierre précieuse, de Saphira, sa femme vendit un bien. Bon, jusqu'ici, ça va bien. Il détourna à son profit une partie du prix. Bon, il pouvait faire, après tout. De connivence avec sa femme. Et ayant porté une certaine partie, il l'a mis au pied des apôtres. Par parenthèse, comme si c'était tout.
Ici, c'est l'homme qui pêche le premier.
Ah oui, c'est probablement à dessein que Luc a mis les choses de cette manière-là aussi. Or, Pierre dit, Ananias, en raison de quoi le Satan remplit-il ton cœur? Que tu mentes à l'Esprit Saint. Il devrait être rempli d'Esprit Saint, non? Parce que Satan l'a fait mentir. Non? Et que tu détournes à ton profit une partie du prix de terrain. Ce qui demeurait, ne demeurait-il pas pour toi? Si tu avais pris quelque chose, c'est très bien, tu pouvais le garder. Et ce qui avait été vendu, n'était-il pas en ton autorité? Tu étais libre, autrement dit, de vendre ton bien, de ne pas le vendre, de donner tout, de donner une partie. Tu étais libre. Mais tu as menti à l'Esprit Saint. Autrement dit, tu as fait comme si tu donnais tout. Tu t'es donné un nom que tu n'avais pas. Qu'est-il arrivé que tu aies mis en ton cœur cette affaire? Ce n'est pas aux hommes que tu mentis, mais à Dieu. Oui, Dieu est présent dans la communauté, voilà que la communauté devient quelque chose de sacré. Elle est porteuse du Fils de Dieu. Or, entendant ces paroles, Ananias, étant tombé, rendit l'arme, toc. Et arriva une grande crainte sur tous ceux qui entendaient mon comprendre. Or, s'étant dressé, les plus jeunes l'impactèrent, et l'ayant emporté dehors, l'enterrèrent. Or, il arriva, un intervalle d'environ 3 heures, et sa femme, ne se trouvant pas savoir ce qui se trouvait être arrivé, il s'est dit de manière un peu contournée, entra. Or, Pierre répondit à son adresse, « Dis-moi, c'est pour autant que vous vendiez le terrain ?»« Je suis dit, oui, pour autant. » Pierre dit à son adresse, « Qu'est-il arrivé que vous vous soyez accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Voyez la tentation qui est présente. La tentation de prendre pour soi, mais une réalité religieuse. On a mêlé l'avoir avec la religion. C'est là qu'est le péché. Et on a menti. Voici les pieds de ceux qui enterrèrent ton homme sont à la porte, ils vont t'emporter dehors. Et elle tomba subitement ses pieds en disant.
C'est pas des pompes funèbres, ça. C'est
pas... Voilà. Ce sont les jeunes qui faisaient les pompes funèbres à l'époque. Également chez Akumran, c'est aussi des jeunes. Mais vous voyez, ça nous est raconté d'une certaine manière. Alors, bien sûr qu'il y a eu quelque chose au départ. Mais il est impossible maintenant de dire ce qui s'est passé réellement dans l'histoire. Absolument impossible. Étant donné justement la manière dont c'est raconté. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, ce n'est pas tout de suite. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de nous demander, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer au départ? Parce que le texte tel qu'il nous l'est raconté ne nous le dit plus. Il nous raconte exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Dans toute communauté, comme au départ, dans le paradis terrestre, comme avec David, comme avec le veau d'or, là vous pouvez prendre toutes les communautés qui s'assemblent, il y a toujours comme un verre dans la pomme, ça vient de le dire. Il y a un verre dans la pomme. Et ce verre, il consiste à quoi? Au fond, à se faire maître, c'est Babel, à se faire maître de la réalité, à ne pas découvrir la présence de Dieu et ne pas la suivre. Et c'est toujours ce cap de la tentation par lequel il faut passer. Et arrive à une grande crainte sur l'Église tout entière. C'est la première fois que vous trouvez le mot Église. Faut-il l'écrire avec un grand E ou avec un petit E? Moi, je crois que c'est avec un petit E qu'il faut l'écrire, parce que l'Église, à ce moment-ci, c'est vraiment l'Église de Jérusalem. Et surtout ceux qui entendaient ça. Quel que soit maintenant ce qui a été au départ, il y a eu un mensonge, il y a eu une non-vérité, disons, dans la distribution des biens. Et cela nuit à la communauté. Ça, c'est véritablement le vrai. C'est introduire la personne, ou l'avantage, ou le profit de la personne, au lieu de celui de la communauté.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que la communauté, elle mettait la barre un peu trop haut?
Bien sûr.
Et alors, c'est le péché de la communauté aussi?
C'est clair.
C'est les pauvres.
Mais c'est évident. Ouais. Et elle doit le faire.
Elle doit le faire.
Elle doit mettre la barre haut parce qu'elle l'est. La barre, c'est Dieu. Et justement, ce que président il veut nous dire ici, c'est que c'est la force et l'exigence de l'Esprit Saint. Vous allez voir, Saint Paul.
Oui, mais si on décrit la communauté chrétienne comme une communauté idéale, pour y participer, être à ce degré de partage, ben, les pauvres, ils voulaient être comme les autres, mais c'était pour eux.
Et c'est bien sûr. Pourquoi voulons-nous vivre une communauté idéale? Quand nous la vivons idéalement, c'est par grâce. Généralement, nous la vivons dans le péché. Reconnaissons notre péché. Donc, c'est précisément ce qu'on ne veut pas faire. Alors, on dit, il met la barre trop haut, et donc c'est de sa faute. En nous disant, non pas il met la barre, oui, il met la barre trop haut, mais pour nous montrer que nous ne pouvons réaliser ce que cette barre, c'est-à-dire sauter au-dessus de la barre, qu'avec la puissance même de Dieu, pas avec la nôtre. Et donc, nous sommes une communauté de pécheurs. Et la Sainte Église de Dieu est une Sainte Église de pécheurs. Et il ne faut pas se vouloir idéal. Mais il faut pouvoir reconnaître qu'on est pécheur et que cette barre qui est trop haute et que nous recevons par grâce de franchir, nous ne voulons pas la franchir. Et nous nous donnons comme compensation la barre était trop haute. Autrement dit, nous n'avons pas pris le tremplin de l'Esprit Saint. Voilà les deux lectures. Et c'est précisément à cela que Luc veut nous amener. Comme d'ailleurs les Deutéronomes. Deutéronomes veut faire pareil. Vous montrer, vous êtes incapables de vivre la Torah. Dieu merci.
Mais alors il faudrait que le pécheur soit accueilli.
Précisément, c'est ce qui
est en train de faire.
Ah oui, mais le pécheur doit être accueilli, c'est-à-dire on doit l'aider à devenir semblable à Jésus.
Oui, mais pour se reconnaître pécheur, il ne faut pas être...
Sinon, il introduit la mort dans la communauté. Sinon, il introduit la mort dans la communauté. Allez voir comment Saint Paul va traduire les choses. Mettez le doigt à l'écart pour lui montrer qu'il introduit le mal dans la communauté. Si vous l'accueillez comme si de rien ne s'était passé, vous ne lui révélez pas son péché. Or, ceci est peut-être bien au départ une excommunication. Excommuniez-le donc pour lui faire découvrir sa marginalité par rapport à la grâce. Mais c'est bien ça que tout l'Ancien Testament et le Seigneur ne cessent de nous dire. Et c'est d'ailleurs le premier reprend. Ce Jésus, vous l'avez fait, vous l'avez tué. Et nous ne voulons pas l'avoir tué. Et alors nous blanchissons. Et nous disons, oh, il faut faire comme si rien ne s'était passé, ou bien il faut leur pardonner. Mais non, il ne faut pas lui pardonner. Il faut lui dire l'ampleur de son péché. C'est Dieu qui pardonne, c'est pas moi.
Mais si l'Église excommunie tous les pécheurs, et que tout le monde est pécheur, alors il n'a
bien
pas.
Sûr.
Il n'a plus personne.
Mais bien sûr, l'Église est faite d'une communion de pécheurs excommuniés, monsieur.
Excommuniés?
Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est bien parce que je suis excommunié que je puis recevoir la grâce. Mais nous ne nous rendons pas compte de l'importance de cette révélation du péché telle qu'elle est constamment dite par les prophètes. Et nous voulons faire comme si tout le monde était bon, tout le monde était gentil. Mais il faut découvrir que nous sommes pécheurs. Et donc, accepter ce rejet de la part de Dieu. Ce n'est qu'en acceptant d'être rejeté par Dieu que je suis capable de recevoir son pardon. Oui.
Je pense que c'est le malentendu qu'il y a continuellement dans l'Église et dans la presse aujourd'hui, comme le malentendu. C'est que les hommes d'aujourd'hui, évidemment, qui suivent leur religion, qui sont dans le bain de 600 ans, ils perdent finalement d'eux-mêmes.
Ils
perdent d'eux-mêmes. Ils se disent que si cette religion existe pour nous, eh bien, nous ne pouvons pas accepter ce langage-là.
Mais bien sûr,
c'est ça. Je parle évidemment d'un tout autre point de vue. Oui, ils perdent de Dieu, mais je pense qu'il y a une petite erreur fondamentale, je me demande si ce n'est pas un petit vice de forme, c'est que la présentation et la pédagogie n'est pas bien présentée. Il faudrait davantage que l'Église montre au fond Quel est son point de vue à elle? Et le fasse voir la faculté grande comme vous faites maintenant.
Justement, je le dis de cette manière-là, pour vous montrer précisément l'abrupte de la chose. Mais il ne peut pas le dire autrement, parce qu'il le dit constamment. Et les gens de télévision ou nous-mêmes ne pouvons pas dire autrement que nous y opposer. Vous pouvez faire comme vous voulez, ça se fera toujours comme ça. Et c'est pas possible de faire autrement. Parce que le langage nous vient de Dieu. Et nous ne voulons pas le langage qui vient de Dieu. Et quand nous le refusons, nous faisons exactement ce que je disais tout à l'heure, nous commettons le péché originel. Et ce péché originel est diffusé par la télévision.
Nous voyons autre chose, parce que vous dites que vous êtes un bouchon excommunié, mais ce n'est pas ça qu'on entend d'habitude. Quand le magistère parle, ce sont les autres qui sont excommuniés, mais pas le noyau, pas eux, pas le pape, pas les évêques, ils ne sont pas excommuniés, ils ne disent pas comme vous voulez dire.
Maintenant, bien sûr. Parce que ce ne serait pas compris que j'utilise le paradoxe de... je sais bien pourquoi je l'utilise. C'est vraiment pour vous rendre compte que il y a, comme on vient de le dire, Michel vient de le dire, il y a deux langages. Alors si j'utilise ce langage de l'exclusion, c'est parce que c'est vrai que le pape me dit, non pas en son nom propre, il sait très bien qu'il est pécheur. Mais quand il parle, c'est jamais en son nom propre. Ce n'est pas le pape qui parle. C'est Jésus, la parole, qui parle. C'est vrai qu'il faut bien... Et nous disons, c'est le pape qui parle. Et c'est Jésus qui continue de parler à travers ses témoins. C'est la parole qui continue d'être...
Il devrait le dire.
Mais c'est ce qu'on dit constamment. Il dit le serviteur des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, le serviteur, c'est qui? Le premier serviteur, c'est Jésus. Son enfant serviteur. Et parce qu'on ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre. On veut comprendre un Dieu débonnaire. Un Dieu qui pardonne, qui caresse.
Mais on ne veut pas qu'il y ait deux catégories.
Il n'y a pas deux catégories, il n'y en a qu'une.
Je crois que celui qui sent pécheur, il sent dans la mauvaise catégorie.
Mais non, il se sent dans la bonne. Mais celui qui se sent pécheur, qui se découvre pécheur, se sent précisément heureux. Mais parce qu'il est pécheur, et donc il peut s'ouvrir au pardon. Mais nous voyons les choses tout à fait à l'envers. Nous voyons toujours les choses, comme on le dit dans l'Ancien Testament, comme c'est toujours éprouvé par les prophètes, le juste. Jésus nous dit, il n'y a plus de juste. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et nous voulons quand même garder une catégorie du juste. Malgré tout. Mais il n'y en a pas. On vous annonçait un premier pape, si on peut dire, qui est un renégat. On vous a annoncé un deuxième apôtre qui est un traître. Et on vous en a annoncé 10 autres qui se sont enfuis au moment difficile. L'Église est faite de 12 pécheurs au départ, qui ont pu croire en la grâce de Dieu, mais qui ont traversé leur propre péché. Et ce que Saint-Pierre fait ici dans ce discours, c'est redire à chacun son péché.
Oui, je redis le péché. Personnellement, je confesse le plus possible à l'aube de tous les hommes. Je ne suis pas législateur, je n'ai pas à être sévère. Je suis du côté du juge. Le juge doit être bon. Et si quelqu'un se met à genoux près de moi, se met à genoux devant Dieu, il doit se relever deux fois. Quoi. Quand il se relève, il doit se relever à tout point de vue.
Le problème n'est pas là. Le problème ici, c'est un discours. Je ne suis pas encore au niveau de l'action. Pourquoi transmettons-nous des choses de cette manière-là? Ici, on ne nous dit pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On nous dit un discours qui nous montre qu'au départ de l'Église, le péché est existant. Et nous prenons ça comme si c'était un rejet définitif, décisif, de l'un ou de l'autre, ou de nous-mêmes éventuellement. Ce n'est pas ça. Il s'agit d'une déclaration sur ce qu'est la communauté. Et puis nous dit comment la communauté est formée. Et donc, il faudra que Jésus, le ressuscité, et que l'Esprit Saint traverse ce péché-là aussi. C'est tout le chemin de l'Église. Mais, si nous, regardez, comment Jésus s'est-il présenté? Je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Or, il arriva pendant que tout le peuple était baptisé, comme Jésus avait été baptisé, lui aussi était en train de faire. Il prend la figure du pécheur, il dit, mais là. Alors, il faut pas mettre les gens de côté. Il faut simplement se découvrir aussi pécheur avec lui. Et le péché des autres est toujours d'abord le mien.
Dire que dans la dernière encyclique, Jean Paul II, on voit la première page, là, il demande un peu à tout le monde de prier pour la conversion du peuple. Non, c'est pas dire que ça ne va pas vraiment.
Mais c'est sûr. C'est sûr. Mais vous voyez, le problème, c'est que nous mettons tout de suite, nous voulons tout de suite passer de l'évangile à la réalité de tous les jours, et sans avoir attendu que la parole fasse son chemin. Son corps prend beaucoup de temps. C'est comme si vous arrêtiez la lecture de la Bible après le chapitre 3e de la Genèse, sans voir qu'il y a une promesse. Barnabé est celui qui est porteur de la promesse.